Je vous invite dans la parole de Dieu aujourd'hui, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 21. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 21. Car tandis que le monde, par cette sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et notre sujet est le suivant. Dieu bouleverse la société. Nous avons commencé à considérer, dans les semaines passées, l'église de Corinthe, une bonne église sans aucun doute, parce que nous voyons que l'apôtre Paul recommande profondément cette église. Ainsi, cette église n'est pas aussi mauvaise que certains le pensent. D'aucune manière, parce que sinon la recommandation de l'apôtre Paul serait absurde et ridicule. Non, c'était une bonne église. La majorité des gens n'étaient pas dans l'erreur par rapport à la résurrection. La majorité des gens n'étaient pas comme le pécheur de Corinthe. La majorité des gens, peut-être, étaient insensés et avaient cet esprit de division et se divisaient en clans dans l'église. Mais dans la majorité, c'était une bonne église et une église sincère. Mais oui, il y avait des problèmes. Il y avait des choses qui devaient être corrigées dans l'église de Corinthe, et elles ont été corrigées sans aucun doute par la suite. Mais l'église n'est pas aussi mauvaise que certains le pensent, et ainsi ce texte nous parle. Une église qui est sincère est comme toutes les autres églises, une église qui a besoin de réforme, de restauration et de progrès. Ceci nous parle. Si le prédicateur souligne trop les erreurs de l'église de Corinthe et que tout le monde pense que c'est une église complètement charnelle, alors ce texte ne parle plus à l'église ordinaire où l'on aime la vérité, où l'on suit Christ. Mais c'est une bonne église avec une majorité de gens sauvés, sincères. Mais il y avait certains problèmes. Et nous continuons. L'un des grands problèmes ou la raison majeure pour cet esprit de division, la formation de clans dans l'église, c'était qu'ils pensaient, les Corinthiens pensaient, qu'ils devaient impressionner le monde autour d'eux, la communauté. N'oubliez pas que Corinthe était en Grèce. Corinthe était fière de sa sagesse grecque. Corinthe voulait influencer la communauté. Et dans cette culture grecque, ils aspiraient à des moyens pour impressionner les gens autour d'eux. Et ils ont conclu, et ceci était une erreur, que ce dont ils avaient besoin, c'était des prédicateurs avec une grande personnalité, des dons impressionnants, des prédicateurs remarquables. Ainsi, ils avaient la tendance de dire « Oh, nous voulons Paul !» Et d'autres disaient « Non, Paul n'est pas le meilleur orateur !» Et apparemment, il n'était pas le meilleur orateur. D'autres disaient « Non, nous préférons Apollos !» Parce que Apollos va les impressionner. Si vous entendez Apollos parler sur l'apologétique en prouvant que Jésus est le Christ, écoutez Apollos, la puissance de son raisonnement, c'est lui que nous voulons suivre. Et d'autres disaient, non, l'apôtre Pierre est celui que nous voulons parce qu'il était un témoin oculaire de toutes choses. Ainsi, il a plus d'influence dans l'esprit des gens. Et c'était ce besoin qu'il ressentait de quelque chose pour impressionner le monde. Et tout ce chapitre est là pour corriger cet aspect. L'apôtre Paul dit « Vous n'avez pas besoin de cela et vous ne devez pas penser à ceci ou aspirer à ces choses parce que si vous produisez votre grande personnalité remarquable et votre grand orateur, si vous êtes charismatique, vos dons charismatiques et toutes ces autres choses, et vous pensez que ces choses sont essentielles pour impressionner les non-convertis, les incroyants, alors vous êtes loin de la puissance de la croix de Christ, de la parole, de la prière, et vous avez perdu la puissance, mais vous ôtez la puissance de la croix, de l'évangile et de Christ. Mais il dira non, Christ a renversé toutes les choses, et il appelle à lui les humbles, les gens qui sont petits, pour prêcher aux grands et aux puissants. Comment est-ce possible, dites-vous? Mais ceci, ça vient du Seigneur, et parce que ceci fonctionne, la gloire revient au Seigneur, non pas aux hommes. Dès que vous voyez une congrégation, une assemblée qui applaudit un prédicateur, ceci vient de la chair, dit l'apôtre Paul, ceci vole la gloire de la croix de Christ. Si vous voyez un prédicateur qui est tellement bon en apologétique et qui impressionne tellement, et les gens l'admirent pour la puissance, pour son raisonnement, pour la supériorité intellectuelle de son raisonnement, l'apologétique a sa place dans l'évangile, mais dès que vous commencez à mettre ces choses trop en avant, alors vous volez la gloire à la croix de Christ. Et vous oubliez que Dieu a complètement bouleversé la société. Tout est sens dessus-dessous. Et la gloire doit lui revenir à lui. Dès que vous vous dites, nous avons besoin de plus que la prédication simple, nous avons besoin de pièces de théâtre, nous avons besoin de films d'évangélisation, qui vont impressionner les gens, toucher l'émotion des gens. Nous avons besoin d'un film dans une situation où vous voyez des gens qui sont dans des tragédies de la vie et ensuite tout d'un coup ils sont transformés et vous voyez que tout d'un coup ils sont heureux comme les films du monde et nous voulons toucher l'émotion. Mais non, vous allez voler la puissance à la croix de Christ. Et c'est faux. Beaucoup de croyants ne comprennent pas ceci de nos jours. Et ils lisent trop rapidement le premier chapitre de 1 Corinthiens et ils veulent ces grandes personnalités qu'ils peuvent admirer. Certaines personnes m'ont dit, et peut-être qu'ils vous ont dit ceci à vous, aussi seulement quelqu'un de vraiment important et connu et célèbre était converti, ceci ferait toute la différence. Alors ceci influencerait la société, les gens seraient bouleversés. Des gens qui sont si célèbres et qui se convertiraient, non, ceci n'aurait pas d'effet. Parce que Dieu va utiliser ceux qui sont humbles pour bouleverser la sagesse des sages. Ce n'est pas ainsi que le Seigneur œuvre. Nous oublions 1 Corinthiens 1. Et l'honneur et la puissance et la gloire qui appartient à la croix de Christ, prêchez simplement. Et nous allons considérer ce passage au verset 21. Car tandis que le monde, par cette sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie ? Car tandis que le monde, par cette sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, peut-être que vous allez penser, et vous aurez raison en partie, que le monde, par sa propre recherche, son intelligence, ne peut pas trouver Dieu et n'a jamais trouvé Dieu. Mais le monde, par cette sagesse, n'a point connu Dieu. Ceci se réfère à ceci. Le monde est clairement un monde créé. C'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Nous pourrions parler de ceci tant c'est si complexe, si merveilleux, si beau, ceci inclut tant de systèmes merveilleux et beaux, tant de détails microscopiques dans la fonction de ces complexes. Plus les scientifiques étudient ces choses, plus ils doivent continuer d'explorer, d'étudier les particules, les influences et tout ceci qui contribue à la vie, c'est au-delà de ce que nous pouvons comprendre. C'est un monde créé, merveilleux et beau. Mais l'effet que ceci devrait avoir sur l'être humain, c'est de considérer les étoiles, les paysages, et d'être émerveillé, et de réaliser, et d'être complètement émerveillé de cette réalisation que le Dieu Tout-Puissant a créé ces choses, qu'il est notre Créateur, qu'il est là, qu'il existe, qu'il est notre Dieu. Mais en réfléchissant, en observant ces choses, l'homme ne voit pas ces choses. Nous voyons la nature, vous regardez la télévision, les programmes télévisés qui parlent des origines de l'homme. Constamment, ils disent « la nature a fait cela, la nature a fait ceci ». Qu'est-ce que c'est que la nature ? Non, ce n'est pas Dieu. Nous expliquerons toutes choses un jour sans Dieu, les choses mystérieuses qui ont une explication rationnelle, mais ils ne voient pas Dieu en cela. Ils ne sont pas impressionnés, ils ne voient pas le Créateur, ils ne voient pas l'ingénierie divine. Car tandis que le monde, par cette sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, l'homme, par ses recherches, par sa propre sagesse, n'a pas connu Dieu à cause de la chute de l'homme, à cause de son péché, à cause de sa désobéissance. Ainsi, Dieu, dans sa sagesse, a imposé la malédiction. Et l'homme a chuté. et le monde entier. Et c'est les ténèbres dans sa compréhension, son esprit, sa pensée. Et dans les ténèbres, il voit les choses évidentes, mais il ne comprend pas. Même ceci, il ne comprend pas la création. Est-ce qu'il va comprendre que Dieu est venu du ciel sur cette terre, la deuxième personne de la Trinité, et est devenu homme, et est allé à la croix dans l'angoisse terrible? Il a pris la condamnation éternelle de tous ceux qui croiront en lui pour payer le prix pour leur rédemption. Comment est-ce que l'homme peut croire en cela? Il va penser que ceci est une folie. Dieu qui meurt sur une croix, Dieu qui meurt, qui expérimente la mort, Dieu qui est exécuté comme un criminel, Dieu qui est humilié, ceci c'est une folie. C'est là ce que l'apôtre Paul dit ici au verset 21. Car tandis que le monde, par cette sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse et la justice de Dieu, la sagesse humaine n'a point connu Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication, ou ce que l'homme pense être une folie. Et d'une certaine manière, c'est une folie, parce que c'est si simple. Peut-être que vous allez penser qu'il faut quelque chose de plus sophistiqué pour que le cœur humain des hommes et des femmes soit transformé. C'est une folie pour Dieu que de choisir quelque chose de si simple, une proclamation verbale, la prédication. Mais c'est là ce que Dieu a fait pour que la gloire lui soit rendue à lui et que l'œuvre soit celle de l'Esprit. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et j'aimerais expliquer ce matin, verset par verset, au verset 22, voici la soi-disant folie de Dieu, tandis que les Juifs demandent des miracles. Oui, ils demandent des miracles l'un après l'autre. Christ est venu, et il a accompli les miracles les plus grands possibles, et les scribes et les pharisiens, les chefs des Juifs, étaient très souvent au premier rang, et ils ont vu les miracles à quelques mètres de loin, et c'était invincible. Il guérissait par sa puissance divine, c'était évident, des choses extraordinaires et merveilleuses, mais leur cœur était si dur qu'ils n'ont pas accepté, qu'ils n'ont pas cru. Et ils disaient, nous voulons des miracles plus grands, nous voulons que les cieux s'ouvrent, quelque chose du genre. Et nous voulons quelque chose de spectaculaire. Chaque fois qu'ils voyaient un miracle, ils voulaient quelque chose de plus grand, parce que leur cœur était si dur, si endurci. Tandis que les Juifs demandent des miracles, et que les Grecs, ou si vous voulez, les non-Juifs. Mais dans ce contexte des Corinthiens, c'est littéralement les Grecs. Les Grecs cherchent la sagesse. Le monde non-juif voulait quelque chose pour lequel ils pouvaient être fiers. Nos sages, nos philosophes ont pensé à ceci, ont trouvé ceci, nous pouvons en débattre, et nous pouvons partager nos points de vue, ceci doit venir de nous-mêmes, notre opinion. Mais l'Évangile, la vérité de l'Évangile est venue du ciel. L'homme n'y aurait jamais pensé. Christ a œuvré, a donné le salut pour ses enfants. Nous n'aurions rien pu contribuer. Et les Grecs cherchent la sagesse, quelque chose qui vient de leur propre pensée et réflexion. Ainsi, ils n'ont pas accepté. Au verset 23, nous prêchons Christ crucifié. Chaque parole est importante ici. Nous prêchons. Le terme traduit par prêcher, littéralement signifie « nous élevons la voix » comme un héros dans une ville, quelqu'un qui proclame l'évangile proclamé à une multitude de personnes ou des témoins si vous voulez. Nous prêchons des paroles, non pas du théâtre, non pas une manipulation émotionnelle, non pas des films et des romans pour présenter l'évangile, rien de ceci. Non pas l'apologétique dans ses extrêmes, non pas des gens célèbres ou toutes sortes de manipulations, mais simplement des prédicateurs qui prêchent Christ, qui proclament Christ, loin de Dieu, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, crucifié, qui a souffert, qui est mort. Scandale pour les Juifs, un scandale en grec, ou une pierre d'achoppement. Un scandale pour les Juifs. Jésus de Nazareth, le Messie, et il est mort sur une croix comme un criminel, c'est un scandale. Notre Messie sera quelqu'un qui sera de descendance royale, noble et resplendissant, et folie pour les Grecs, parce que ceci ne venait pas de leur philosophie, mais pour ceux qui sont appelés, au verset 24, appelés. Il y a dans ce texte beaucoup de choses importantes par rapport à l'élection souveraine, mais pour ceux qui sont appelés, appelés par Dieu, par sa miséricorde, par sa bonté et par son initiative. Le monde entier résiste à Dieu, et personne d'entre nous n'aurait cru en lui. Si ce n'était pas par sa grâce, Dieu a œuvré dans le cas de millions de personnes, et il a œuvré dans nos cœurs, il nous a appelés, par une œuvre de la grâce. Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, l'apôtre Paul ne fait pas de différence entre les deux, entre les juifs sauvés et les grecs sauvés ou les non-juifs sauvés. Ils sont tous un en Jésus-Christ. Il y a une seule église du Nouveau Testament qui est composée des juifs sauvés et des non-juifs sauvés. Mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Christ est la puissance de Dieu. Il a créé le monde. Il soutient le monde. Lui seul a payé le prix pour le salut par sa mort expiatoire. Lui seul, par son Esprit Saint, œuvre dans les cœurs et nous amène à lui. Il est la puissance de Dieu. Christ peut œuvrer, briser par sa toute-puissance tout le lavage de cerveau du monde. Et si nous aspirons à ces choses du monde, ces ambitions, ces choses pour moi-même, moi en premier, si nous méprisons Dieu et le rejetons, mais la puissance de Dieu œuvre et brise toutes ces choses, toute cette propagande, tout ce lavage de cerveau du monde et m'a amené à Christ. C'est une œuvre de la grâce, un miracle de Dieu. Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Combien Dieu est plein de sagesse et la méthode du salut, elle est si pleine de sagesse, le monde entier, toutes les nations du monde, dans toute l'histoire du monde. Les gens voulaient la puissance, l'influence, les territoires, des idéologies se sont élevées et les gens voulaient captiver le cœur, la pensée de millions de personnes. Comment est-ce qu'ils ont fait ceci? En général par la force, par la guerre, par la conquête ou par des méthodes rusées, en saisissant la puissance de l'éducation ou le monde des romans, des livres, pour renverser toute une nation. Une nation qui était auparavant contre l'homosexualité et d'autres choses et qui à présent accepte ces choses. La puissance de la force. Mais quelle est la sagesse de Dieu par contraste avec ceci? La sagesse de Dieu, ce n'est pas par manipulation, ce n'est pas par force, mais par la puissance de l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu, la puissance exclusive de Dieu. L'apôtre Paul l'exprime ainsi. Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Il n'y a rien de plus bon et plein de sagesse que le chemin du salut, rien de plus puissant, parce que, au verset 25, car la folie de Dieu ou la soi-disant folie de Dieu est plus sage que les hommes. Christ est Dieu qui est mort comme un criminel sur une croix. Ceci est une folie. Non, c'est infiniment plus sage et plus beau que tout ce que l'homme peut créer. Toutes les idéologies se sont éteintes et ont passé et ont été remplacées par d'autres idéologies dans le monde. Mais l'Évangile continue et sauve pour toujours. C'est plus sage que toute autre chose. Même la méthode de Dieu est plus pleine de sagesse que les méthodes de l'homme. Il utilise une manière humble pour convertir même les gens les plus humbles et les gens les plus intelligents s'il le choisit. Ainsi, la gloire lui est rendue et c'est évident. Ceci donne la gloire à Dieu seul, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la soi-disant faiblesse de Dieu, oui bien sûr il n'y a pas de faiblesse en Dieu, mais aux yeux des hommes, la soi-disant faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes, par exemple, d'utiliser des pêcheurs de poissons, comme ses disciples, le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils ont renversé la société, et la faiblesse de Dieu était plus forte que les hommes. Et regardez au verset 26, « Ceci s'est renversé complètement la société. Considérez, frères, voyez ce terme particulier, merveilleux, Vous êtes appelés, nous sommes sauvés parce que nous sommes appelés. C'est la grâce, la miséricorde de Dieu, chers amis. Vous qui avez été appelés, voyez votre Église, votre communauté, le royaume de Christ. Combien il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles qui sont appelés. Certains le sont. L'apôtre Paul lui-même était extrêmement intelligent, même avant d'être sauvé. Mais pas beaucoup, très peu. Pas beaucoup de sages, de philosophes. Pas beaucoup de puissants, de rois, de généraux, de gouverneurs, de présidents. Oui, certains, par la grâce de Dieu, mais pas beaucoup. Ni beaucoup de nobles, des gens de l'aristocratie, de descendance royale. Au verset 27, un autre terme qui parle de l'élection souveraine, mais Dieu a choisi. Dieu a choisi. Ce terme est utilisé 3 fois en 2 versets. Ce n'est pas par hasard. Dieu a choisi, c'est l'élection souveraine. La miséricorde extraordinaire, la bonté de Dieu qui a touché nos cœurs. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde, les gens moins éduqués, pour confondre les sages, pour qu'ils soient honteux. Comment est-ce que nous faisons ceci? Nous témoignons de l'Évangile à notre chef, à notre manager, si nous avons l'occasion, à ceux qui sont intelligents. Et si le Saint-Esprit est à l'œuvre, les cœurs sont humiliés et ils deviennent humbles et ils fléchissent le genou devant Jésus-Christ. Et ils abandonnent leur sagesse humaine, non pas leur expertise dans le monde, mais leurs opinions du monde, leur philosophie, leur façon de penser. Et ils se joignent aux enfants de Dieu. Et Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et les sages ont été humiliés, et les sages sont devenus des croyants. Et vous avez ceci dans Jacques, chapitre 1, que j'aimerais lire au verset 9. Que le frère d'humble condition se glorifie dans son élévation et le riche dans son humiliation. C'est là ce que Dieu fait quand il nous convertit. Par la bouche des gens les plus humbles, il convertit les plus grands et ils sont humiliés. Ils s'humilient devant Dieu et ils trouvent la vie et la lumière. Et c'est là ce à quoi ces paroles se réfèrent. L'apôtre Paul parle de la prédication de l'Évangile, de la folie de la prédication. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Au XIXe siècle, les églises se sont dites « Nous avons besoin de pasteurs bien éduqués. » Beaucoup de gens sont convertis et ils prêchent. Mais certains prêchent avec un drôle d'accent local. D'autres ont un accent écossais ou un accent du Pays de Galles ou un accent du Nord. Et peut-être un accent de la classe ouvrière. Ceci ne suffit pas. Nous avons besoin de pasteurs éduqués. Ceci est plutôt acceptable dans une certaine mesure. Les gens doivent être instruits. Quand Spurgeon a commencé son institut biblique, il éduquait les prédicateurs parce que beaucoup n'étaient pas instruits, n'avaient pas d'éducation, et il les instruisait dans la parole de Dieu. Mais au XIXe siècle, les églises sont allées trop loin. Ils voulaient des pasteurs éduqués qui pouvaient avoir des doctorats, plein de doctorats, pour qu'ils puissent impressionner la communauté et être éduqués. Mais ce qu'ils ont reçu, c'était le libéralisme, l'apostasie, les doutes, les critiques contre la parole de Dieu. Oui, c'est important d'être éduqué, d'apprendre autant que vous pouvez pour porter la bannière de Christ, mais pas d'accomplissement extraordinaire, parce que ce n'est pas le chemin de Dieu, il utilise les gens humbles pour convertir les petits et les grands, ceux qui sont appelés également parmi les grands de ce monde. C'est là la manière par laquelle Dieu œuvre pour que la gloire lui soit rendue. C'est une aspiration de la chair que de vouloir plus et de vouloir impressionner. Au verset 27, l'apôtre Paul souligne ces choses. Dieu a choisi les choses folles, Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes et les choses viles du monde. Même les gens qui auparavant étaient les moins éduqués, comme Billy Bray dans les cornouailles, qui était presque autant utilisé dans les réveils que George Whitefield, et les choses qui sont méprisées. Oui, l'apôtre Paul dit aux Juifs ici également, les non-Juifs seront vos pasteurs tout autant que les Juifs convertis, ceux qui sont méprisés par les Juifs. Oui, ceci s'applique dans toute la société, dans tous les peuples. Et Paul continue, même celles qui ne sont point, ceux qu'on pense être sans valeur, inutiles, Dieu va les appeler pour anéantir, pour humilier, pour amener à la repentance et à rechercher Dieu. Les choses qui sont, c'est là la manière par laquelle Dieu opère. Il bouleverse les choses, sens dessus dessous. Au verset 29, « Afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. » Et même dans certaines églises évangéliques de nos jours, ils applaudissent le pasteur. Ils parlent de dons et de toutes sortes d'autres choses, « Afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. » Les premiers pasteurs, les apôtres du Seigneur, étaient des hommes très humbles. Ils étaient prêts à être pauvres, ils étaient prêts à être fouettés, battus, ils étaient prêts à mourir martyrs. Et ils n'étaient pas les grands de ce monde, mais ils servaient les gens. Qu'il en soit toujours ainsi, par la puissance de Dieu, alors nous verrons sa puissance à l'œuvre, dans les cœurs, dans les vies. Au verset 30, pour conclure, « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu. » Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Nous avons considéré ces termes merveilleux dans un culte d'évangélisation récemment. Christ nous a été fait sagesse. Le chemin du salut est entièrement en Christ qui est venu du ciel sur cette terre pour expier nos péchés et il est ressuscité des morts. Et la justice, nous avons la justice qui nous est imputée. Sa justice, nous sommes justifiés par Christ. Et la sanctification, la transformation, la vie nouvelle, la nouvelle naissance, et la sanctification progressive en devenant de plus en plus selon Dieu, et la rédemption, qui signifie la rédemption finale ici, la grande transformation à la fin de notre chemin, quand nous entrons dans l'éternité. Mais il y a un deuxième sens à tous ces termes, même après la conversion. La sagesse, la justice, la sanctification, la rédemption. Tout ceci parle de ceci, même après la conversion. Ceux qui sont humbles sont rendus sages, et certaines des personnes les plus sages que j'ai connues et qui m'ont apporté beaucoup et qui parfois ont été des guides pour moi et qui ont compris des choses dans certaines situations d'une manière extraordinaire étaient des gens qui étaient humainement parlant les moins éduqués. Christ leur a donné une humilité, une sagesse plus profonde que le monde ne peut donner. Et la justice, les critères moraux de Dieu écrits dans leur cœur, profondément, plus profondément, et la sanctification. Ils ont été rendus meilleurs, les époux plus doux et compréhensifs envers leurs femmes, les femmes pleine d'amour, de bonté, de douceur, de tendresse. Et la rédemption. Quel est votre plus grand espoir ce matin, alors que je conclus, quelle est votre plus grande source de plaisir? Ça devrait être la réalisation et la pensée d'aller dans la gloire pour voir le Seigneur. Si c'est là notre plus grande espérance, notre attente, notre bonheur et notre plaisir, alors peu importe les difficultés et les pertes sur le chemin.